m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bienvenue sur Restons Courtois, enfin non, sur Radio Courtoisie, dans l'émission Restons Courtois, où nous allons effectivement aborder ce soir, avec plusieurs personnages éminents, dont François Guéranger, le pouvoir de la justice en France, le pouvoir du politique en France. Est-ce qu'il s'agit des mêmes pouvoirs? Dans quelle mesure le juge a-t-il pris le pas sur le politique? Dans quelle mesure le politique n'essaye-t-il pas de reprendre le pas sur les juges, avec notamment cette loi sur l'entrisme, cette loi sur le séparatisme, la loi Retailleau, et la manière dont Laurent Nunez l'interprète? Voilà, donc est-ce que Laurent Nunez et les juges sont véritablement en train de faire régner la justice? C'est la question qui va nous occuper ce soir avec ce fameux article 6, et notamment donc l'article 6 du titre 2, assécher les financements des groupes séparatistes, où le législateur nous explique que le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de 6 mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques qui appartiennent ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui soit provoque ou contribue par leur agissement à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne, un groupe de personnes, à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, etc. Et donc, ce que nous dit la loi, ce que nous dit le législateur, et cette loi vient de passer au Sénat, c'est que donc le ministre de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider ensemble de couper les vivres à quelqu'un, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une association, d'une personne morale. Et ils le font sans que le juge y mette le doigt. Comment en est-on arrivé à un tel danger pour nos libertés? Comment en est-on arrivé à ce qui apparaît comme la dénégation absolue du pouvoir du juge, puisque cette décision de justice, entre guillemets, est évidemment prise en dehors du juge et elle peut être renouvelée. Voilà. Vous pouvez avoir vos économies gelées, vous pouvez avoir votre salaire bloqué pendant 6 mois. Autrement dit, vous êtes condamné à une mort sociale, vous êtes condamné à la charité, même pas publique, vous êtes condamné à la charité familiale ou solidarité personnelle, et ça peut être renouvelé. Voilà, parce que les ministres ont décidé, dans le secret de leur cabinet, sans que le juge y mette le doigt, et avec des procédures d'appel qui n'ont pas l'air, et de contestation qui n'ont pas l'air d'être très précises, de vous priver de vos vivres. Et je répète à nouveau la chose, il suffit de provoquer ou de contribuer par des agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne, etc. Autrement dit, si jamais quelqu'un explique, comme par exemple Olivier Pouvremonti, qu'il y a un lien clair entre immigration et insécurité, Olivier Pouvremonti, donc il dirige l'Observatoire de l'immigration, eh bien, quelqu'un peut expliquer, attention, c'est une provocation à la haine, en raison justement de l'appartenance de ces immigrés à une idée, à une nation. Voilà, on ne peut pas, si je dis les Afghans sont dangereux, les immigrés afghans en France sont dangereux, ça y est, j'ai commis un péché qui peut me valoir d'être privé de mes revenus pendant 6 mois. Et on peut étendre la chose. Et on voit bien que cette loi contre le séparatisme et l'entrisme qui, selon Bruno Retailleau, ne concerne que l'entrisme et le séparatisme musulman, tel que le législateur et donc tel que Bruno Retailleau a tourné sa loi, peut être une arme qui vise tout le monde. Et d'ailleurs, Laurent Nunez lui-même a expliqué que, bien sûr, le séparatisme et le musulman, c'est pas bien, que l'entrisme musulman, c'est pas bien, mais en fait, il faut voir plus loin, il faut voir du côté de l'ultra-droite. En fait, l'intention du législateur, qui est celle de Bruno Retailleau, c'est peut-être le séparatisme musulman. L'intention du législateur, quand il s'agit de Laurent Nunez, c'est quelque chose de bien différent. C'est quelque chose qui, évidemment, fait en sorte de viser tous ceux qui sont contre la République. Et être contre la République dans un pays où le président de la République, Emmanuel Macron, explique qu'il faut un arc républicain pour mettre le Rassemblement National en dehors de la République, où des chefs de parti expliquent que le Rassemblement National ou LFI sont en dehors de l'arc républicain ou ne sont plus républicains, ne sont pas des partis républicains, on voit jusqu'où ça peut aller. Là, il y a un outil qui est mis à la disposition du pouvoir exécutif, indépendamment du pouvoir judiciaire, pour nous retirer tout vif, ou en tout cas, plutôt nous retirer à feu lent. François Guéranger, après cette introduction qui j'espère ne vous a pas effrayé, je me tourne vers vous, parce que vous venez de publier un ouvrage, mais vraiment remarquable, La revanche des juges, histoire d'une reconquête, aux éditions de l'Artilleur, où vous nous racontez comment les juges ont au cours de la 3e, de la 4e République, étaient soumis vraiment au pire des régimes, c'est-à-dire transformés en purs exécutants de l'exécutif, et on finit par se rebeller et à vouloir conquérir eux aussi le pouvoir, n'en pouvant plus d'être assujettis au pouvoir des autres. Et vous nous expliquez d'ailleurs que ça y est, les juges ont pris leur revanche, qu'ils ont réellement reconquis le pouvoir et que ce pouvoir des juges existe.
Oui, tout à fait. D'abord, je vais vous dire que il y avait deux choses qui m'ont un peu étonné ces dernières années. La première, c'est une expression qui est le gouvernement des juges ou la République des juges. On en a beaucoup parlé et on continue d'ailleurs d'en parler. La deuxième, c'est
les juges protestent.
Et les juges protestent, oui, effectivement. On pourra peut-être dire pourquoi ils protestent, parce qu'ils ont aussi leurs raisons. La deuxième, c'est une phrase disant le juge ne fait qu'appliquer la loi. Et on entend ça beaucoup, et notamment dans la bouche de magistrats de très haut niveau. Ça fait bien longtemps que j'entends ça, et j'ai travaillé pendant 2 ans à peu près pour essayer d'éclaircir ces deux points. J'ai beaucoup lu, beaucoup entendu, et puis travaillant moi-même, étant magistrat moi-même.
Et c'est ça, j'ai oublié de le préciser, oui. Vous avez été avocat, vous êtes maintenant magistrat, vous avez été des deux côtés de la barrière, donc vous avez été celui qui défend une position du droit et qui ne tranche pas, et vous avez été, de l'autre côté, celui qui, sur le même droit, adopte une position qui devient l'expression de la République.
Vous avez tout à fait raison, et c'est ce qui permet d'avoir une vision assez large de la situation. Alors, en ce qui concerne le gouvernement des juges, bon, c'est une des questions que vous avez posées, c'est traité surtout à la fin. Il y a deux façons de voir la démocratie. La première, c'est la façon classique, c'est-à-dire celle qui ressort de l'article 3 de la Constitution, selon laquelle la souveraineté nationale appartient aux représentants du peuple et au peuple lui-même, par l'intermédiaire du référendum. C'est la vision classique, c'est la tradition qui a été établie par la Révolution de 1789, et en tout cas, c'est celle qui figure dans la Constitution. Dans ce modèle-là, le peuple est souverain et c'est lui qui maîtrise son propre destin. Puis il y a une autre vision qui est apparue progressivement et qui aujourd'hui est tout à fait net, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Alors l'état de droit est tout à fait normal. L'état de droit, ça veut dire que tout le monde est soumis au droit. Et en particulier l'État, le gouvernement, l'administration, tout le monde est soumis au droit, et ça c'est tout à fait normal. Sauf que depuis quelques années, notamment depuis les traités européens, et surtout depuis la création de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit en question n'est plus tout à fait ce qu'il était autrefois. Autrefois, c'était quelque chose, c'était un ensemble de données précises, claires, et tout le monde pouvait en gros savoir s'il était du bon côté ou du mauvais côté de la loi. Et à la suite de deux événements, le premier, c'est donc la Convention européenne des droits de l'homme, qui est particulièrement étendue et flou, lorsque vous prenez l'article 8, par exemple, qui explique que tout le monde a droit au respect de la vie privée. Qu'est-ce que la vie privée? La Cour européenne dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de définition de la vie privée. Donc, évidemment, à partir de là, on peut faire beaucoup de choses et le juge peut décider un peu ce qu'il veut. Ça, c'est le premier point, et c'est au niveau européen. Et au niveau français, il y a eu, en juillet 1971, ce que Robert Badinter a appelé le coup d'État juridique des juges. C'est lorsque le Conseil constitutionnel a décidé que désormais, le préambule de la Constitution de 1946 ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen faisait partie du droit. Du droit directement. Souvent, lorsqu'il y a des grands principes, on les traduit en loi. Et puis, la loi s'applique. Et à ce moment-là, la loi est en général beaucoup plus claire, ce qui fait qu'on sait à quoi s'en tenir. Tandis que là, directement, les grands principes font partie du droit.
Et alors, faisant partie du droit, ça ouvrait grand la porte à des interprétations qui contredisent absolument ce que le législateur fait dans le cadre de la Ve République.
Alors, ouvre la possibilité d'interprétation, ça c'est vrai. Contredisent, ça c'est moins évident. Ce qui est sûr, c'est que à partir de là, le Conseil constitutionnel qui devient le maître de l'interprétation de ce nouveau droit, de ce droit des principes supérieurs, eh bien, il peut décider que tel ou tel texte est conforme ou non à ces grands principes. Et il est tout à fait souverain en la matière. Ce qui fait que, on peut prendre des exemples.
Regroupement familial, par exemple.
Alors, le regroupement familial, oui, c'est le Conseil d'État, ça, à l'origine, qui, au départ, si vous voulez qu'on reparle de ce point-là, au départ, c'est le président Giscard d'Estaing, avec son premier ministre Jacques Chirac, qui avait instauré ce regroupement familial. Il estimait que, dans la mesure où il y avait beaucoup de travailleurs immigrés en France, c'était mieux pour eux d'avoir leur famille à côté. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, à l'époque de Raymond Barre d'ailleurs, le président Giscard d'Estaing s'est aperçu que ça posait beaucoup de problèmes. Et donc, il a demandé au Premier ministre de modérer cette situation. Le Conseil d'État a refusé complètement. Et à partir de là, eh bien, le regroupement familial est tout à fait normal en France. Et évidemment, le principe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'article 8 de la Convention européenne qui parle du droit à la vie privée, eh bien, le regroupement familial fait partie de la vie privée. Donc, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, la définition donnée par la CEDH s'applique. Donc, aujourd'hui, dans l'état actuel du droit et de la position que l'on a à l'égard du droit, on ne peut pas revenir sur ce point-là. Mais pour revenir à la possibilité pour le Conseil constitutionnel d'intervenir dans la vie politique, bon, il suffit de prendre la loi sur l'immigration, qui était approuvée, semble-t'il, par à peu près 70% des gens, et qui a été vidé de son contenu par le Conseil constitutionnel. Là, il a été extrêmement astucieux, parce qu'il n'a pas statué sur le fond. Il a utilisé un artifice de procédure qui lui a permis de supprimer tout un tas d'articles.
Mais on est bien d'accord, c'est les juges du Conseil constitutionnel ont décidé d'utiliser cet artifice, c'est précisément un artifice, et ils ont expliqué qu'en droit, on ne pouvait pas avoir écrit la loi telle qu'elle avait été écrite, mais rien les obligeait, il n'y avait pas de logique interne à la Constitution, il n'y avait pas de logique interne au texte refusé, il y avait une volonté avérée de ne pas faire passer cette loi-là.
Peut-être, en tout cas, ce qui est certain...
Peut-être, même certainement, pardonnez-moi.
Non, parce que là, c'est entrer dans l'idée du Conseil constitutionnel peut avoir été inspiré.
Mais c'est pas non plus comme si le constitutionnel n'avait pas une espèce de ligne directrice qu'il s'est donnée à lui-même de faire en sorte de favoriser en permanence les lois qui permettent d'accueillir de plus en plus de gens et de les laisser de plus en plus longtemps en France, en faisant en sorte qu'ils accueillent de plus en plus de familles, quelle que soit la manière dont ils se sont intégrés, assimilés, ou pas du tout intégrés ou pas du tout assimilés, et en faisant en sorte de leur donner le plus de droits possible et de rendre leur départ le plus compliqué possible. Ça fait quand même quelques années que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont décidé clairement que l'immigration était une chance pour la France et qu'il ne fallait absolument pas la limiter. Donc, bien sûr, on peut toujours se dire je ne suis pas dans l'esprit du juge au moment où il prend cette décision, mais quand il y a 22 décisions consécutives qui vont dans le même sens, on peut penser qu'il y a une politique.
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la vision juridique de ces affaires-là. Et dans la vision juridique, ce que vous dites ne figure pas. Et puis, il y a la vision politique. La vision politique, c'est ce que vous exprimez. Moi, en tant que magistrat, que juge, je ne suis habilité qu'à voir la position juridique.
Ben, ce qui est intéressant dans votre livre, donc La Revanche des juges, Histoire d'une reconquête, c'est que justement, vous montrez que, au début, la loi est très claire, mais que le juge peut prétendre qu'il ne fait qu'appliquer la loi et que les membres du Conseil d'État ou ceux du Conseil constitutionnel peuvent prétendre ne réfléchir que sur les textes et que sur la logique des textes, mais qu'en fait, il y a des interprétations de plus en plus extensives. et que au fur et à mesure en fait que les juges s'essayent à reconquérir le pouvoir, par exemple, voilà, le Conseil constitutionnel décide brusquement que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 font partie des textes légaux, et le Conseil constitutionnel, il y a quelques années, nous explique que au nom du principe de fraternité, l'accueil des immigrants illégaux n'est pas condamnable. Et donc, et brusquement, le bon Cédric, qui avait été condamné selon la loi, se retrouve blanchi parce que le Conseil constitutionnel jette la fraternité au milieu du chemin, et tout le monde vient s'échouer sur cet obstacle, puisque brusquement, ceux qui sont censés dire la loi disent qu'il y a quelque chose qui, justement, contredit toutes les lois actuelles et néanmoins supérieur à toutes les lois qui ont été votées par le souverain, c'est-à-dire le peuple, à travers ses représentants.
Vous soulevez tellement de choses que je vais essayer de répondre en deux points. La première, c'est que, et je l'indique bien dans le livre, je fais une distinction entre les juges. Il y a ce que j'appelle les grands juges. Ils sont cinq. C'est d'une part la CEDH, hein, la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour de justice de l'Union européenne. Ce sont les juges européens. Puis le Conseil constitutionnel en France, ainsi que la Cour de cassation et le Conseil d'État. Ce sont ce que j'appelle les grands juges, et effectivement, ce sont ceux qui manient et qui détiennent les principes supérieurs, les principes si importants pour notre temps, comme c'est expliqué, et qui les interprètent de la façon qu'ils entendent les interpréter.
Pardonnez-moi de vous interrompre, parce que je sens toute la prudence juridique et judiciaire et de bonne loi avec laquelle vous dites les choses. Mais dans votre livre, le ton est tout aussi polissé, mais on sent malgré tout soit percer une certaine ironie, soit percer malgré tout une certaine critique. Ainsi voit-on s'esquisser la stratégie du juge pour accroître son pouvoir, fabriquer son propre droit, un droit de préférence floue, contradictoire et souple. Or, il se trouve que les principes moraux matérialisés dans les droits de l'homme correspondent parfaitement à cette description. Cette conjonction va se révéler particulièrement fructueuse. On reviendra tout à l'heure sur le fructueux. Il va de soi néanmoins que cette démarche appartient à ceux que j'appellerais les grands juges, c'est-à-dire ceux qui officient dans les cours et conseils suprêmes. Le juge du quotidien, celui que peuvent fréquenter les justiciables de tous les jours, n'est pas en mesure de créer du droit flou, contradictoire et souple. Il a bien trop à faire avec tous ceux qui viennent le voir pour régler les problèmes de la vie quotidienne. Mais donc, voilà, vous nous dites bien que les grands juges, en fait, fabriquent un droit à leurs mains, et donc tout en prétendant appliquer la loi et ne pas créer le droit, en fait, ils sont en train de créer du droit.
Oui, c'est tout à fait le cas. Une petite distinction, là je parlais du juge de quotidien, même lui ne fait pas qu'appliquer la loi, non pas qu'il fasse des choses qu'il ne devrait pas faire, mais il faut voir que le travail du juge, et c'était le deuxième point dont je vous parlais au tout début, qui m'a incité à écrire ce livre. Le juge du quotidien, c'est celui que l'on voit quand on va au tribunal, quand on va au civil ou au pénal. Et c'est celui qui a comme première tâche d'établir les faits. Premièrement, est-ce que les faits sont établis? Deuxièmement, quelle est la caractérisation, quelle est la qualification juridique des faits? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui réclame une somme d'argent, est-ce que c'est un prêt, un vol ou un don? Et une fois qu'il a fait ça, il va chercher le texte qui correspond aux faits qu'il a établis. Donc ce qu'on voit, c'est que la partie la plus importante, c'est la qualification des faits, et ça, dans ce domaine-là, le juge a un pouvoir énorme. Ça n'est qu'après qu'il va choisir le texte qui correspond, qu'il va l'interpréter et qu'il va l'appliquer selon les circonstances. Donc quand on dit qu'il ne fait qu'appliquer la loi, non, d'abord il va apprécier les faits, et c'est un pouvoir énorme. Et ensuite, il applique la loi selon le cas de figure.
Alors, mais même dans cette application...
Et ça, c'est uniquement au niveau de base.
Bah, hein. Et vous prenez l'exemple de Jean Valjean, d'ailleurs.
Oui, c'est un petit-fils, je crois. Ou un arrière-petit-fils de celui de Victor Hugo.
D'accord. Et donc Jean Valjean et Cosette, le boulanger, un pain est volé. Jean Valjean prétend que... le pain n'a pas été volé, mais donné par le boulanger.
Parce que Cosette est toute maigre.
Mais oui, il a bien raison. Et Saint Thomas d'Aquin défend le vol dans ces cas-là. Mais bon, là, Jean Valjean ne mobilise pas Saint Thomas d'Aquin, le boulanger non plus. Il se retrouve devant le juge. Et là, vous imaginez une fiction juridique où vous nous dites, ben voilà, soit le juge considère qu'il y a vol, effectivement, et... D'abord, soit le juge dit, est-ce que je crois le boulanger, crois-je le boulanger ou crois-je Jean Valjean? Et je, on met Cosette de côté.
Voilà.
Alors, mais surtout que Cosette n'intervient pas encore à ce moment-là.
Ouais,
oui, non, parce que Cosette, elle intervient que lorsque Jean Valjean se
repentit. Elle est trop jeune, Cosette.
Voilà.
Oui,
mais voilà, donc on se retrouve avec effectivement la qualification des faits, c'est-à-dire même le juge d'instruction donc va dire.
Bon, c'est en même fait, le juge de base. Le juge, voilà, même pas d'instruction.
Il y en a un qui dit la vérité ou pas. Et donc. Les faits sont déjà en fait une affaire de jugement et
exactement.
Donc sont déjà une affaire d'opinion, sont déjà une affaire non pas mathématique, mais au contraire une affaire d'appréciation humaine. Et après, est-ce qu'il va considérer qu'il y a vol, est-ce qu'il va considérer qu'il y a grivellerie, enfin, et c'est lui qui choisit ensuite la qualification, et dans un cas c'est le bagne, dans l'autre cas c'est rien, et donc ceux qui vous disent je ne fais qu'appliquer la loi font comme si toutes les situations étaient mathématiques alors que pas du tout.
Exactement, alors là je pense que c'est tout à fait ça.
J'ai lu un excellent livre, La Revanche des Juges, voilà, que je conseille à tout le monde, 20 euros chez l'artilleur. Voilà.
Mais c'est tout à fait ça. On considère que c'est une application algorithmique, mathématique, il y a la loi, il y a le cas, et donc on applique la loi au cas donné. Non, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intéressant d'ailleurs pour le juge lui-même qui a un vrai travail à faire. Et cette qualification des faits, cette appréciation des faits, eh bien, c'est le travail principal. Et ensuite, il va appliquer. Alors ça, c'est le juge de tous les jours, l'immense majorité des juges. Et il y a ce que j'appelle les grands juges. Donc ce sont eux qui se sont débrouillés, en tout cas le Conseil constitutionnel, pour intégrer dans le droit tous ces grands principes. Et la caractéristique de ces grands principes qui constituent un nouveau droit, finalement, c'est un droit qui est extensif ou extensible, qui est flou, parce que, encore une fois, vous citiez tout à l'heure le principe de fraternité. C'est très flou, le principe de fraternité, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Et il y a tellement de principes qu'il y en a certains qui sont contradictoires. Que fait-on ? Et puis, il est suffisamment malléable avec le principe de proportionnalité. On estime que la loi a dit telle chose. Ah, mais oui, mais peut-être que la sanction qu'elle propose est excessive par rapport au cas donné. Donc, je vais donner un exemple assez frappant qui montait jusqu'à la Cour constitutionnelle en Allemagne. C'est un propriétaire qui a un locataire. Le locataire ne paie pas, donc le propriétaire demande l'expulsion. Et à ce moment-là, le locataire envoie un certificat médical expliquant que si on l'expulse, il se suicide. Que doit faire le juge ? Quel est le texte qu'il doit choisir ? Il est en droit de choisir l'expulsion, mais il est aussi en droit de dire « bah oui, mais il y a un problème avec, le suicide éventuel ». Donc, le travail de qualification du juge et le choix du texte est important. Et dans la mesure où les juges, comme la CEDH, ou Conseil constitutionnel ou la CJUE, ont élargi le droit des grands principes, on peut mobiliser d'autres principes tout aussi valables, mais qui sont tellement flous et tellement malléables qu'on peut décider un peu n'importe quoi.
Alors, décider n'importe quoi...
Enfin, n'importe quoi, non pas bah,
oui,
que ce soit de mauvaise qualité,
c'est pas réellement n'importe quoi.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut décider dans un sens ou dans un autre, c'est ça que je voulais dire, pas n'importe quoi au sens où ça n'avait, aucune qualité.
Et là aussi, parce que ce que vous reprochez à ce « je ne fais qu'appliquer la loi », c'est une manière de se dédouaner, et vous dites, on peut la traduire ainsi. « Je suis obligé d'appliquer la loi, et c'est ce que je fais. » Si quelqu'un n'est pas satisfait du résultat, il faut s'en prendre au législateur et non au juge. Genre, le juge n'est responsable de rien. Mais vous ajoutez tout de suite, cette façon de procéder n'est pas tout à fait honnête intellectuellement. Et c'est ça, en fait. Toute cette question de la revanche des juges, c'est la manière dont une population, une caste, en tout cas une population d'abord, une caste ensuite, a décidé qu'il y avait quelque chose qui était injuste dans le sort qui lui était fait et qu'il fallait, en fait... elle aussi avait droit au pouvoir, avec ce que ça signifie comme influence, comme manière de faire trembler les autres, et comme manière d'inventer une loi, et d'ailleurs comme manière aussi de s'abstraire de la loi. J'ai été assez surpris par la manière dont les juges ont l'air de considérer que rien ne fait débat, que personne n'a le droit de contester, que quiconque n'est pas content commet un crime de lèse-justice. Cette façon de procéder n'est pas tout à fait honnête intellectuellement. La phrase est en effet à la fois vraie et fausse. Elle est vraie parce que dans le cas général, la décision s'inscrit dans le cadre de la loi. Elle est fausse car la marge de manœuvre du juge dans l'exercice de son jugement est si importante que sa décision reflète au moins autant sa vision personnelle des choses que la loi elle-même. Voilà. Les juges prétendent être des outils infaillibles et presque inhumains alors qu'en fait, ils sont profondément humains. Et d'ailleurs, vous citez un autre auteur qui nous dit « La loi donne une très grande latitude Pour un accusé qui risque la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut descendre jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et même du sursis si elle le souhaite. Donc on voit bien qu'effectivement, oui, il y a une latitude incroyable. Quand un accusé risque une peine de réclusion à temps, c'est-à-dire jusqu'à 30 ans, il est possible de ne le condamner qu'à une année d'emprisonnement assortie au nom d'un sursis. La liberté d'une cour d'assises est donc presque totale. Voilà. Et donc, oui, c'est contrairement à cette fiction d'un juge les mains liées par la loi, au contraire, la pratique du juge est la liberté.
Du fait, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il apprécie les faits, et ensuite il va pouvoir appliquer la loi en l'appliquant au cas d'espèce, parce que quand on est à l'audience, ce sont des humains en chair et en os que l'on voit, et on n'applique pas nécessairement la loi à une personne comme celle qu'on applique à une autre. Ce que vous disiez tout à l'heure sur cette revanche, je n'ai pas écrit qu'il y avait une intention avérée, une intention marquée de reprendre le pouvoir. Ça ressemble à ça, mais ça n'est pas...
Aucun juge ne l'a exprimé de cette manière-là.
Exactement.
Voilà. Alors,
exactement.
Cela dit, certains juges ont exprimé la nécessité, vous en faites part dans votre livre, d'être plus présent dans le débat, de changer de perspective sur les justiciables, de réclamer des comptes à des gens à qui on n'en réclamait jamais.
Il y a un point quand même important, là, je voudrais vraiment en parler, c'est le fait qu'il y a une certaine méfiance à l'égard du peuple. Cette méfiance à l'égard du peuple, le président Giscard d'Estaing, dans un discours qu'il avait fait le 8 novembre 1978 devant le Conseil constitutionnel, l'avait exprimé. Il avait dit que les gouvernements, les parlements pouvaient s'emballer pour telle ou telle idée, et finalement, il fallait réfréner cette façon d'agir, et c'est pour ça qu'il était très satisfait que le Conseil constitutionnel ait intégrer au droit les grands principes parce que ça lui permettait d'intervenir pour éviter cet emballement. Donc il y a cette méfiance à l'égard du peuple et on la retrouve essentiellement aussi dans ce qu'écrit la CEDH. En gros, aussi bien, enfin notamment la CEDH, elle explique que la loi, le gouvernement, c'est incombe au gouvernement. Oui, la politique incombe au gouvernement ou bien au Parlement, mais à condition que ça respecte les grands principes qui sont, comme il l'exprime, je n'ai plus la phrase exactement en tête, mais qui sont irréductibles au pouvoir politique. Ça veut dire que indisponible au pouvoir politique, ça veut dire qu'on ne peut pas agir dessus et que de toute façon, ces grands principes sont insérés dans le cœur humain ou dans l'esprit humain et donc ils ne sont pas disponibles. Et qui est capable d'utiliser ces grands principes pour sanctionner les lois ou les décisions gouvernementales, c'est le juge. C'est ce point-là qui est vraiment pour moi essentiel. Et j'ai appelé ça ensuite revanche, parce que ça ressemble à une revanche, mais dans l'idée, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est d'abord une méfiance à l'égard du peuple.
Une méfiance à l'égard du peuple, et on voit bien qu'effectivement, elle est partagée par les élites actuelles. Voilà.
Oui,
Marie-Charlotte.
Vous connaissez sans doute la célèbre citation de Montesquieu qui dit, je cite, « Il faut même que les juges soient de la condition de l'accusé ou ses pairs pour qu'il, l'accusé, ne puisse pas se mettre dans l'esprit qu'il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence. » Si vous aviez la possibilité de répondre à Montesquieu, vous seriez de son avis ou au contraire, vous lui diriez que les choses ont changé ?
Je crois que je reviens à la même distinction que j'ai faite tout à l'heure. Vous avez les juges du quotidien qui sont à peu près, qui répondent à cette question-là. Bien sûr, ils ont étudié le droit, bien sûr, ils le connaissent, alors que la personne qui est jugée ne le connaît pas, elle a un autre métier. En revanche, ceux que j'appelle les grands juges, eux, ne font partie plutôt d'une catégorie qui est plus élevée. Ce sont des institutions qui ont beaucoup d'influence sur la création du droit, avec la CEDH en particulier. Et donc, peut-être que pour eux, la phrase pourrait évoquer un certain nombre de choses.
Parce que c'est une phrase qui, aujourd'hui, peut parler à beaucoup de citoyens qui estiment très souvent que les juges, alors peut-être les juges du quotidien, justement, appliquent parfois des peines qui sont trop faibles. Alors, tout le monde n'a pas étudié le droit. Je crois qu'on a souvent tendance justement à vouloir donner une peine plus dure que, pardon, que ce qui peut être délibéré. Mais il y a souvent un sentiment de deux poids, deux mesures qui ressort dans l'actualité.
Oui, oui, effectivement, ça peut ressortir. Moi, j'en vois beaucoup de dossiers, je siège beaucoup, j'ai des collègues variés, différents, et chacun a une vision des choses, nous avons tous une vision des choses, et je ne pense pas qu'on puisse dire que d'une manière générale, ce soit spécifiquement laxiste. Il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, il y a le dossier, et puis il y a l'audience, et à l'audience, on voit la personne, et on peut, à ce moment-là, avoir un avis personnel sur le dossier. Et c'est déjà pas si facile quand on se retire pour délibérer. On a souvent des discussions. On voit pas nécessairement les choses de la même façon. C'est difficile de prendre une décision, surtout lorsqu'on a affaire à une personne qui est jeune, démunie, ou au contraire, quelqu'un qui a l'air de ne pas vouloir s'amender ou autre. Donc c'est déjà difficile. Et donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui lit le journal ou qui entend la radio, c'est très difficile pour lui de donner un avis éclairé sur les dossiers en question. Qu'il ait le sentiment, c'est bien possible. Mais je ne peux pas aller dans le sens où on dirait que systématiquement, les peines ne sont pas assez importantes ou autres. Il y a des peines, je vous assure, qui sont sévères, même au niveau du tribunal correctionnel. Et il y a des cas où on se dit peut-être que la peine aurait pu être inférieure. Donc, dire d'une manière générale qu'il y a laxisme, non. Peut-être que certains juges sont laxistes. Vous avez vu, on en a parlé tout à l'heure, le pouvoir que chaque juge a. Hein. Alors, certains ont une tendance laxiste, c'est possible. Et puis d'autres ont une tendance sévère, hein, ça existe aussi. Mais dire que d'une manière générale, la justice est laxiste, ça mériterait une étude beaucoup plus approfondie.
François Guéranger, dans votre livre, vous avez quand même cette thèse de la revanche des juges, autrement dit, de dire que les juges ont peu à peu conquis en fait un pouvoir qui n'était pas censé être le leur, qui est la définition de la norme juridique. C'est-à-dire, normalement, c'est le législateur, donc, et c'est le pouvoir législatif qui définit la norme juridique. Et là, peu à peu, il y a un glissement. Et donc, le juge qui n'est pas censé dire la loi, enfin, qui est censé ne faire que la dire, il est la bouche de la loi, voilà. Brusquement, devient en fait celui qui écrit la loi. Et c'est ça que vous appelez la revanche des juges. Mais vous avez quand même l'air de dire dans votre livre qu'en fait, ça ne se fait pas par hasard. C'est que vous comparez en fait la norme juridique à un marché et les juges dans leur ensemble à une population qui entend en fait devenir leader sur ce marché, si je devais parler comme un lessivier, et donc qui entend en fait prendre le pouvoir du marché du droit.
Alors, j'ai pris la précaution quand même dans le livre de dire que ça se passait comme si.
Oui, oui, j'entends bien.
C'est-à-dire que je n'ai à aucun moment dit qu'ils avaient une intention.
Non,
plus ou moins caché,
vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il y a un cartel des juges avec des lois secrètes.
Non, pas du tout. Il n'y a pas de complot des juges pour prendre le pouvoir.
Mais
non, certainement
mais
pas.
Mais néanmoins, la meilleure manière pour vous de décrire cette position actuelle des juges, c'est comme si. Avec des
mais
actes.
C'est descriptif.
Voilà, exactement.
C'est comme si. C'est-à-dire que c'est une
disons que c'est la meilleure manière de le décrire.
De le décrire. Ça ne veut pas dire que ça soit intentionnel.
Non, j'entends
mais
bien.
Ça ressemble
à
ça.
Mais sauf qu'à un moment donné, au fur et à mesure que s'élabore cette conquête de ce marché, eh ben, les juges se rendent compte des possibilités et donc ils décident de participer de ce mouvement, quand bien même personne ne l'a lancé.
Je pense qu'il y a quand même une conviction chez les grands juges qui est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le peuple n'est que le peuple. Et donc, heureusement que nous, grands juges, sommes là pour en maîtrisant les grands principes, amender des lois ou des textes qui seraient excessifs et qui, grâce aux grands principes que nous maîtrisons, deviennent acceptables pour tout le monde. Ça, je pense que c'est vraiment... il le pense vraiment.
Absolument. Et d'ailleurs, et c'est là, ce sont eux, justement, au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, à la CEDH, qui passent leur temps à pondre des lois qui stupéfient tout le monde et ou à empêcher que
pas
d'autres.
Pas des lois, que... ils prennent des arrêts ou des décisions.
Oui, voilà. Et, mais donc, et qui font que, bah, par exemple, la loi sur l'immigration est vidée de sa substance. Chers amis, voilà, il est 18h04, donc c'est le moment de vous rappeler que vous écoutez Restons Courtois sur Radio Courtoisie, radio libre, radio associative, radio qui ne dépend pour le moment d'aucun empire, qui n'est assujetti qu'aux strictes lois de la République, qui risque de changer, et ce changement risque de nous valoir évidemment des condamnations, puisque qui peut prétendre être comment dire, innocent quand le pouvoir politique s'arroge le droit de décider que quelqu'un a, par ses propos, ses agissements, incliné à la discrimination, à la haine ou la violence. Avec quelque chose d'aussi flou que la haine, on peut faire condamner tout le monde, y compris les saints, et pourquoi pas Radio Courtoisie au passage. Donc n'hésitez pas, soutenez-nous, c'est le moment de faire en sorte que Radio Courtoisie, à défaut d'être puissante, puisse être indépendante. Merci beaucoup. François Guéranger, dans cette conquête du droit, vous dites qu'il y a évidemment... une méthode qui permet de vérifier. Donc l'analyse marketing de la conquête du droit vous a paru être la meilleure. Et vous avez décidé de vous doter d'un instrument précis que j'ai beaucoup aimé, qui est l'indicateur de puissance.
L'indicateur
de pouvoir. Voilà. Donc, vous avez fait une étude. Il y a une étude de marché. Il y a une analyse de la concurrence. Bon, et puis à un moment donné, on se dit, bah, très bien, tout ça, c'est je dresse le tableau. Mais comment ça marche depuis l'Ancien Régime jusqu'à la Ve République actuelle? Et donc, parlez-nous un peu de cet indicateur de pouvoir.
Alors d'une part, la conquête elle-même, vous l'avez souligné, c'est une démarche, ça ressemble, j'insiste bien, ça ressemble à une démarche marketing.
Non, mais c'est hyper original, on n'a qu'une envie, c'est que ce soit vrai. N'insistez pas trop sur le fait que c'est une image. Ouais, c'est une image, mais après ça, lisez le bouquin comme si c'était vrai, et c'est tellement lumineux que ça en est enthousiasmant.
Bon, donc ça c'était... Alors, une fois qu'on se dit, il y a pourquoi ? Alors, deux mots sur la revanche. Sous l'Ancien Régime... Au départ, le roi était tout puissant, donc il était en même temps la justice. Et puis, petit à petit, les parlements ont conquis du pouvoir jusqu'à 1789, où ils ont réussi à bloquer les décisions gouvernementales dans un État qui était en faillite. C'était des lois fiscales qui étaient proposées et les parlements les ont bloquées. À la suite de ça, tout s'est résolu dans la Révolution, si j'ose dire. Et à ce moment-là, les révolutionnaires ont dit, bah, autrefois, c'était le pouvoir royal qui était souverain. Maintenant, ça, c'est le peuple. Le pouvoir populaire qui sera souverain. À partir du moment où il est souverain, nous ne voulons plus que les parlements viennent contrecarrer ces décisions-là. Donc on supprime les parlements et les juges, qui vont demeurer, ne feront plus que dire la loi, être la bouche de la loi. Ce qui était quand même une situation bien inférieure par rapport à celle d'autrefois. Il y a un journaliste qui avait écrit un livre en 1910, je crois, qui disait « Dans mon collège, j'avais des camarades ». Et les uns voulaient devenir avocats, les autres officiers, les autres médecins. Personne ne voulait devenir magistrat parce que la position était tellement... Ils étaient mal payés, ils étaient mal considérés, donc personne ne voulait devenir. Ce qui fait qu'il y a eu une période d'à peu près 150 ans où la position de magistrat était peu enviable. Ça pouvait justifier une revanche, en tout cas, au moins intellectuellement. On pouvait se dire, pourquoi pas de revanche? Et cette revanche, je ne vais pas aller plus loin, elle est apparue à partir du moment où l'Union européenne a affaibli le pouvoir politique français du fait des traités. Lorsque Jean-Claude Juncker disait que devant les traités, il n'y a pas de choix démocratique. Et puis le Conseil constitutionnel. Donc, c'est ce qui explique la revanche. Mais lorsqu'on passe... d'une situation assez faible au moment des Capétiens, plus forte au moment de 1789, beaucoup plus faible ensuite jusqu'en 1758 et aujourd'hui, on peut le dire, c'est qualitatif, et je me suis dit ça serait intéressant de faire un indicateur quantitatif pour avoir des chiffres. Et donc j'ai inventé en quelque sorte, ou j'ai cherché plus exactement des critères. Le premier, c'est la maîtrise de la loi de la loi fondamentale, j'appelais ça la loi fondamentale parce que sous les rois, il n'y avait pas de constitution, la maîtrise de la loi fondamentale, la maîtrise de la loi, la maîtrise de la création du droit, la maîtrise de la justice et puis les rapports, les relations entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Parce que dans certains cas, par exemple, sous Louis XVI, le pouvoir politique avait une action sur le pouvoir judiciaire. Les parlements avaient été supprimés à un moment avant que Louis XVI les rétablisse. Donc c'était quand même un pouvoir. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, puisque officiellement, de par la loi Sapin II et la loi suivante, les juges ont la possibilité de juger les hommes politiques. Donc il y a plutôt, c'est plutôt dans l'autre sens. Et donc en donnant des valeurs à chacun de ces critères, j'ai suis arrivé à un certain nombre de chiffres, de quantitatives, et j'arrive à 60% de pouvoir avant la Révolution, pour les juges, et à 85% aujourd'hui, montrant que la revanche a bien eu lieu, et elle est même allée au-delà de ce qu'avaient les parlements de l'époque.
Cher monsieur, merci beaucoup d'intéresser les auditeurs à l'histoire des parlements, et également de la justice d'Ancien Régime. J'aurais que tu me fais une question. Vous dites, entre les Capétiens et Louis XVI, entre la Révolution et aujourd'hui, à chaque fois il se passe quelque chose, et la logique semble étrangement similaire. Pourquoi est-ce que le bon roi Saint-Louis a créé les parlements de Paris, plus ou moins créés, plus ou moins étendus? Il me semble, mais je me fie à votre expertise, que c'était pour contrecarrer des justices féodales, qu'à ce moment-là, la souveraineté du roi de France essayait de renier, en se réservant notamment la question de la haute justice, et en créant une possibilité d'appel pour ceux qui étaient justiciables dans leur bailli, dans leur comté. C'était vu plutôt comme un contre-pouvoir pour étendre le pouvoir du roi avant que ce dernier ne s'autonomise, il me semble, sous l'Ancien Régime.
Je vois pas. Enfin, c'est pas exactement ce que j'ai trouvé au cours de mes recherches. C'est beaucoup plus prosaïque. Lorsque le domaine royal était tout petit, c'était assez facile de rendre la justice parce qu'il y avait pas beaucoup de justiciables. Et le Conseil du roi, qui était autour de lui, était l'organe qui rendait la justice. Il y avait le roi, vous savez, Saint Louis sous son chêne, et puis le Conseil du roi, donc un certain nombre de personnes qui pouvaient évoquer un certain nombre de situations et qui rendaient la justice. Le pouvoir féodal était tout à fait important, et je pense que le roi, ça ne l'ennuyait pas beaucoup d'être déchargé de tout cela, parce qu'il y avait beaucoup d'affaires et que chaque grand féodal pouvait, même petit féodal d'ailleurs, parce que chaque seigneur local pouvait rendre la justice. Et il y avait un pouvoir d'évocation, un appel, surtout lorsqu'il y avait des sentences de mort qui étaient prononcées, qui pouvaient aller jusqu'au Conseil du roi.
On a longtemps dit que ces parlements s'intégraient dans l'affirmation de l'État royal aux dépens de la justice des comtés, des duchés et de la souveraineté des grands. Mais peut-être...
Ça, c'est vrai. À partir de là, lorsque le domaine royal s'est étendu, il a fallu trouver des personnes pour rendre la justice à la place, et c'est là qu'on a créé les parlements. Ils se sont créés au fur et à mesure que le domaine royal s'étendait. Et donc, au fur et à mesure, on voit la création des parlements qui suit l'extension du domaine royal. Et le parlement faisait le travail que faisait auparavant le Conseil du roi. Qu'ils aient eux-mêmes eu envie, par moment, de ce qu'ils pouvaient faire, d'évoquer un certain nombre de questions locales parce qu'ils avaient envie de les traiter, c'est tout à fait possible. Mais ça me paraît plus local que partir d'un mouvement délibéré.
Ce qui est un peu tragique dans cette histoire, et on pourrait également faire l'histoire du Conseil constitutionnel, c'est que les Capétiens n'avaient pas forcément anticipé l'autonomisation de leur propre justice, ni le défi qu'elle leur lancerait. Or, quand le général de Gaulle institue le Conseil constitutionnel, il me semble qu'il le voit comme un contre-pouvoir par rapport à l'Assemblée, en cas de retour du parlementarisme, pour vraiment épaissir le trait, et peut-être aurez-vous matière à nuancer. Or, ce Conseil constitutionnel, qui initialement était un bras à l'exécutif, s'est progressivement retourné contre lui dès lors que je crois que Giscard a donné à l'opposition le droit d'interpellation.
Nous en parlions dans la première demi-heure.
Vous en parliez effectivement lors de la première demi-heure. Et in fine, même contre le législatif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Un pouvoir qui s'étend et cherche à créer des contre-pouvoirs à ses éventuelles oppositions, les grands, l'Assemblée, pour le cas du roi, pour le cas de la République, voit les juges lui échapper. Et les juges acquérir un pouvoir que, effectivement, a priori, 5 ou 6 000 mecs en hermine n'ont pas les moyens d'exercer. D'où vient ce gouvernement? Enfin, avec respect pour l'autorité, mais...
Non, mais c'est tout à fait vrai, me semble-t-il. L'émancipation des parlements, c'est surtout au XVIIIe siècle, notamment parce qu'ils ont vu que le parlement anglais avait une mainmise... sur le roi d'Angleterre, et donc ils se sont dit, nous aussi nous représentons le peuple, ce qui n'est pas vrai, Et c'est pour cela qu'ils ont décidé d'enregistrer les idées royaux quand ils le voulaient. Ils sont même allés jusqu'à... Vous savez, vous connaissez l'histoire du lit de justice. Lorsque le Parlement ne voulait pas enregistrer un édit, le roi convoquait un lit de justice, qui était quasiment un vrai lit dans la cour de cassation là-bas, et il disait « Je vous ai délégué mon pouvoir, je vous retire mon pouvoir, à partir de là, c'est moi qui décide ». Et évidemment, le Parlement était obligé de s'exécuter, sauf que sous Louis XVI, ils ont dit « Ben non, la justice, ça ne marche plus ». Donc ils se sont vraiment émancipés. Ça, c'est très clair. Pour le Conseil constitutionnel, il a été créé parce que la Constitution de 58 a partagé le domaine de la loi en deux. L'article 34, c'est la loi qui dépend du Parlement, et puis l'article 37, qui était autrefois de la loi, mais qui devient le domaine réglementaire et qui est dans les mains du gouvernement. Mais évidemment, il y a des frontières. Et pour surveiller la frontière, eh bien, il y avait deux organismes, ou il y a toujours d'ailleurs deux organismes, le Conseil d'État qui vérifie que l'administration n'empiète pas sur les lois, et le Conseil constitutionnel qui, au départ, était là pour vérifier que la loi n'empiétait pas sur le domaine réglementaire. Et puis, en 1971, c'est là le grand changement, le 16 juillet, le Conseil constitutionnel dit eh ben, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'une part, et le préambule de la Constitution de 1946, d'autre part, font partie du droit. Et donc, je vais pouvoir intervenir sur la base de ces points-là. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une autonomisation de cet organisme que l'on peut comparer, peut-être qu'il faudrait creuser un petit peu plus, mais que l'on peut comparer à celle qui s'est passée au XVIIIe siècle.
Pour en venir au dernier développement, si Richard de XVI m'y autorise.
Rapidement alors.
Il y a comme une impression de récurrence aux histoires. François Mitterrand disait « Méfiez-vous des juges, ils ont détruit la monarchie, ils détruiront peut-être la République ». On a des dialogues très anciens. Platon, dans les lois et dans le politique, par exemple, explique que les lois, l'ensemble des normes, ne pourront jamais couvrir, finalement, toutes les situations de contentieux, de conflits potentiels. Il faudra donc faire confiance dans quelqu'un. Il faudra donc faire confiance en les qualités qui peuvent se révéler, celles d'un président, celles d'un monarque, pour arbitrer et trancher les situations. Or, ces qualités de monarque vieillissent avec le sang des Bourbons. Louis XV, Louis XVI ne sont pas Louis XIV, et finalement, il y a comme un mouvement de méfiance par rapport à la figure du roi. François Mitterrand, François Hollande ne sont pas le général de Gaulle, ni même Georges Pompidou. Donc, est-ce qu'il ne faut pas voir dans cette ascension du pouvoir des juges un signe systématique, de par la récurrence dans l'histoire, d'une décadence, finalement, du personnel politique. Décadence de la famille royale, décadence de la fonction présidentielle, qui fait qu'on ne s'en réfère plus à l'autorité d'un homme à qui on prêterait les qualités aristocratiques du gouvernement et de l'arbitrage, mais finalement à des procédures, à un ensemble de règles et de normes sous l'Ancien Régime, puis sous la République.
Oui, c'est une question intéressante. Alors, pour ce qui concerne la période qui suit 58, le niveau des présidents, je vous laisse votre appréciation, je n'ai pas trop d'idées, en tout cas juridiques, à porter sur la question. Par contre, pour l'Ancien Régime, c'est un peu différent, parce que le roi n'était pas, c'était pas que la personne physique, il y avait le corps du roi. Et donc le roi, c'était une institution, quelle que soit la personne physique qui la représentait. Et ce qui fait que lorsque les parlements de la fin du XVIIIe siècle se mettent à contester le pouvoir royal, c'est non pas Louis XV ou Louis XVI seulement, c'est surtout le roi, le principe même du roi qu'il conteste. Si on veut faire un parallèle, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on ne conteste pas la qualité personnelle de tel ou tel président, mais le fait même d'être président. C'est même l'institution de président de la République que l'on contesterait si on voulait faire le parallèle.
Je voudrais d'abord accueillir Pierre-Marie Sève. Bonjour Pierre-Marie, voilà, vous êtes délégué général de l'Institut pour la Justice. Donc François Guéranger a écrit ce remarquable ouvrage, La Revanche des Juges,
oui.
Histoire d'une reconquête. Je ne me lasse pas d'en montrer la couverture et d'expliquer qu'il ne coûte que 20 euros, voilà, pour un nombre de pages conséquent. On va y arriver. 340, Ça fait pas cher la page. À partir du chapitre 12, vous nous dites, et vous avez raison, quand on a lu les 11 premiers chapitres, que le gouvernement des juges est bien établi et que donc cette expression, quand bien même les juges eux-mêmes la rejettent en expliquant au contraire qu'ils se sentent horriblement contraints par le pouvoir, ne serait-ce parce qu'il n'y a pas l'indépendance du parquet, qui est l'ultime verrou qui leur permettrait enfin de se débarrasser de tout ce qui ressemble à quoi que ce soit du législatif ou de l'exécutif, vous dites, c'est peut-être le moment d'examiner la satisfaction des justiciables. Parce que c'est vrai, au bout du compte, dire cette magnifique épopée des juges...
Dans une conquête de marché, effectivement.
Donc il y a un moment donné, on a conquis le marché, on se retrouve évidemment comme tout le monde, on n'est pas les seuls. Et donc ce marché du droit, les juges possèdent vraiment le monopole de la norme, mais le peuple, lui, possède le monopole des emmerdements. Et donc il vient régulièrement toquer à la porte de la justice en lui demandant de lui rendre justice. Et là, brusquement, les grands juges se sentent en décalage complet avec le peuple.
Oui,
enfin,
oui,
pas brusquement d'ailleurs.
Non, oui, c'est effectivement ce que je dis.
Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, comment expliquer ce décalage ?
Il y a eu l'étude de marché. L'étude de marché a montré, apparemment, que ce qui intéressait une certaine catégorie de la population, sont les droits de l'homme, et les droits de l'homme entendus au sens de l'individu. L'individu qui est devenu particulièrement centré sur lui-même, voire égoïste, voire narcissique. Et la CEDH, par exemple, est l'exemple même de la Cour qui veut satisfaire l'individu. C'est assez au mépris de la collectivité. Il y a beaucoup d'arrêts, les exemples abondent, pas besoin d'en citer, mais j'en cite un certain nombre.
Et le CLJ, donc Grégoire Pupin, quand on a fait des recueils complets...
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il en parle également. Donc, il y a eu cette vision, pour satisfaire le public, en quelque sorte, on va satisfaire chaque individu. Vous voulez changer de sexe, vous pouvez changer de sexe. Vous voulez vous plaigner de votre voisin, on va punir votre voisin. D'ailleurs, on va lui demander mettre une obligation de soins parce qu'il vous... Bon. Donc ça, c'est une satisfaction. Et puis, on s'aperçoit, quand on fait des sondages, que finalement, l'étude de marché, c'était pas tout à fait ça. L'étude de marché, elle aurait dû démontrer que ce que recherche le peuple, eh bien, c'est beaucoup plus des solutions de la vie quotidienne, mais la vie quotidienne de base. Par exemple, j'ai mon appartement, il y a un squatteur qui s'installe, je suis très ennuyé qu'il faille attendre 2 ans pour qu'il s'en aille. C'est une solution de la vie quotidienne et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui...
Ni le législateur, ni le juge ne facilitent les choses.
Oui, sachant que dans ce cas d'espèce, c'est plutôt le préfet aujourd'hui qui ne facilite pas puisque c'est lui qui a la maîtrise désormais. Donc, tout ça pour dire que quand on recherche la satisfaction du justiciable, donc de l'utilisateur, eh bien les sondages ne sont pas bons.
Les sondages ne sont pas bons et on se retrouve aussi avec cet individu roi qui a des droits, y compris le droit de ne pas aimer le pays dans lequel il est, le droit de ne pas aimer le régime de ce pays, le droit de ne pas aimer la religion qui est encore celle des autochtones. Bon, prenons au hasard, puisqu'il s'agit d'une loi sur le séparatisme qui vise explicitement le séparatisme musulman de la part de Bruno Retailleau et de Laurent Nunez. Donc on en arrive à... cette loi qui, pour attaquer le séparatisme musulman, en arrive à reprendre tout le catéchisme des droits de l'homme et à expliquer que tous ceux qui provoquent, contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion déterminée... Et donc, on fait le catalogue de toutes les haines possibles et en se disant, par exemple, en ce moment, au Sénégal, il y a une chasse aux homosexuels, c'est un pays musulman, donc on va coller l'orientation sexuelle dans la loi et comme ça, les musulmans ne pourront pas prêcher ouvertement une différenciation entre les homosexuels et les hétérosexuels. Mais on en arrive à cette loi qui... emploie des mots flous, comme vous le disiez vous-même, emploie des mots imprécis et qui surtout va permettre, par exemple, pour un justiciable qui fait bêtement le lien entre immigration et insécurité, comme beaucoup de statistiques tentent à le prouver, on va lui dire non, pas du tout, vous propagez la haine. Et donc on se retrouve avec une loi qui, en fait, va permettre d'aller à l'encontre des souhaits du peuple.
Bah, de toute façon, plus un texte est flou, plus il permet de sanctionner, ou de ne pas sanctionner d'ailleurs, puisque ça marche dans les deux sens, une action. C'est intéressant lorsque vous parlez de haine, parce que j'ai retrouvé...
Nous sommes sur Radio Courtoisie, nous parlons de haine.
Eh oui, oui, oui. Il y a un député qui s'appelle Charles de Montalembert, et qui en 1859 avait été poursuivi pour des propos... Alors, ce n'était pas l'incitation à la haine, mais c'était l'excitation à la haine et au mépris du gouvernement. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, Napoléon III réfléchissait avec Victor Emmanuel de Savoie à la création de l'Italie, puisque la création de l'Italie, c'est Napoléon III qui l'a faite, hein, et avec Victor Emmanuel. Et évidemment, dans la mesure où l'Italie devait être unifiée, les États pontificaux allaient disparaître. Ce qui fait qu'en France, il y a eu une opposition extrêmement forte de la part du Parti catholique qui était tout à fait en défaveur de l'action du gouvernement qui voulait cette union italienne. Et donc Charles de Montalembert avait écrit un certain nombre de choses, de critiques sur le gouvernement. Il avait été poursuivi pour excitation à la haine. Donc vous voyez que cette démarche de l'utilisation de la haine est quelque chose qui est très ancien. Est particulièrement utile, puisque c'est particulièrement flou. D'une manière générale, tout droit qui est flou et extensible, flou et souvent contradictoire, eh bien, permet de décider dans n'importe quel sens.
Pierre Marissève, je ne sais pas si vous avez déjà lu donc, La Revanche des
non,
juges.
Non, mais je vais le faire, hein, parce que j'ai entendu, j'y compte bien.
Voilà. Vous pensez, vous aussi, que la haine est un prétexte facile et que là, en l'occurrence, on donne, non pas aux juges d'ailleurs, parce qu'on parle depuis tout à l'heure du gouvernement des juges, mais là, justement, ouais. C'est quelque chose qui est exorbitant du pouvoir des juges.
Le juge est là où il ne devrait pas être et il n'est pas là où il devrait être.
Oui, parce que donc, cette loi, en fait, c'est le ministère qui décide d'attaquer le justiciable et le ministère se fait justice tout seul, en fait.
Voilà, exactement. C'est ce qui existe déjà dans le cadre du terrorisme et du haut du spectre du narcotrafic. Et la proposition de loi de Bruno Retailleau est, in fine, celle qui passera, en tout cas qui a le plus de chances d'être votée, qui est le projet de loi du gouvernement de Laurent Nunez, qu'il a déjà défendu dans la presse, donc qui est déjà écrit, hein, qui est déjà passé devant le Conseil d'État. Il prétend l'étendre à, effectivement, tout un tas de catégories de personnes. Et comme vous l'avez dit, maître, c'est extrêmement flou. Et le flou, c'est la place libre à l'arbitraire. Et donc, en fait, c'est donner tout le pouvoir à ceux qui décident. Et en l'occurrence, je ne sais pas, peut-être que demain, enfin, en URSS, on aurait une loi comme ça. La haine. Staline aurait défini la haine contre le prolétariat, il aurait pu inclure tout ce qu'il voulait. Je ne dis pas que la France est l'URSS ou qu'on va y aller demain, même si on n'est jamais à l'abri de tout.
Pendant la terreur, les lois étaient
volontairement oui, mais absolument. C'est toujours la même chose. Les régimes totalitaires ont besoin de lois et d'un droit flou pour pouvoir mettre en place leur arbitraire et décider sans être liés ni par la justice, ni par les codes pénaux et civils, etc. Donc oui, moi je suis extrêmement inquiet de cette...
Vous êtes inquiet de cette loi. Alors, une dernière question qui s'adresse à vous deux. N'est-ce pas parce que le politique a pris conscience de l'incroyable pouvoir des juges qu'il a décidé de faire cette loi qui, justement, élimine le juge ?
Je ne suis pas sûr qu'elle élimine le juge, parce que vous savez que toute décision administrative est soumise au contrôle du Conseil d'État, par la voie, par exemple, de l'excès de pouvoir. Vous savez qu'il existe
mais
aussi...
Ça veut dire que...
C'est a posteriori.
Ça veut dire que quelqu'un gèle mes avoirs et libre à moi ensuite de prendre mes clics et mes claques et d'aller pleurer
bon
auprès du Conseil d'État.
Bon courage pour aller payer votre avocat, bon courage pour vivre d'ici là.
Exactement.
Donc quand même, on élimine le juge dans les moments intéressants, c'est-à-dire au début. Quoi.
La loi n'est pas passée encore, donc il faudrait peut-être voir tous les détails.
Oui, je parle de l'esprit de la loi.
Si on examine spécifiquement ce point-là... Le juge administratif reste toujours compétent pour examiner la validité de la mesure. Il y a une autre mesure qui est passée plus ou moins inaperçue, il me semble. Je crois que c'est un journaliste suisse qui a dû écrire des choses qui ne plaisaient pas trop à la Commission européenne et qui s'est trouvé bloqué à Bruxelles par une décision de la Commission, alors là sans juge total, je ne sais pas pourquoi les juges n'ont pas protesté. On lui a pris tous ses avoirs, on lui a même interdit de partir.
Oui, c'est beau.
Oui, Jacques Beau, je crois.
Voilà, hein, donc, qui est, enfin, voilà.
Je ne sais pas ce qu'il est devenu.
Bah, rien, il a écrit un bouquin, comme tout le monde, comme Nicolas Sarkozy, mais il gagne moins d'argent.
Et là, si j'ai bien compris la situation, il n'y a eu aucune décision de justice qui l'a condamné à... qui l'ont pris ses avoirs, etc. Donc, vous voyez que la Commission européenne n'est pas en retard pour ce genre de choses. Mais j'insiste quand même...
Mais alors, pour revenir à ma question, est-ce que c'est par peur du juge, malgré tout, qu'on en arrive à l'éliminer de ce genre de décisions qui sont quand même lourdes de conséquences?
Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit éliminé parce que, vous connaissez le référé liberté, c'est-à-dire que dès que la mesure est prise, la mesure administrative est prise, la personne qui l'a subie peut saisir le juge en référé, c'est-à-dire...
En l'occurrence, j'ai cru comprendre que les tribunaux administratifs rejetaient l'urgence, le caractère urgent du référé, et donc n'acceptaient pas de juger le référé, et donc il fallait attendre plusieurs mois avant d'avoir une décision administrative. Bah,
c'est possible, simplement, là, juridiquement ou judiciairement parlant, il faut que la loi soit votée, il faut qu'une décision administrative soit prise à l'encontre de quelqu'un, qu'il ait... fait un référé administratif auprès du tribunal administratif et voir comment il réagit. S'il réagit, comme vous dites, effectivement, c'est ennuyeux. S'il réagit tout de suite, comme il aime bien le faire, c'est moins grave.
Oui, mais enfin, je ne sais pas si j'ai envie de prendre le risque de savoir.
En tout cas, on va voir si le Conseil constitutionnel va retoquer ça ou pas.
Ah bah oui.
Oui, bien sûr. Là, pour le moment, en tout cas, les sénateurs l'ont voté et donc à grande joie.
C'est très intéressant de voir la réaction éventuelle du Conseil constitutionnel.
Absolument.
Sur quelque chose comme ça.
Absolument.
Donc peut-être qu'il faut attendre ce que va faire le Conseil constitutionnel avant de prendre peur.
Faut-il prendre ce risque? Les parlementaires sont là pour justement prévenir ce risque-là. Mais ils ont qu'à supprimer cet article 6 de la proposition.
Au cours de la discussion, ça peut arriver.
Oui, c'est ce qu'on espère.
François Guéranger, on regrette que vous ne soyez pas au Conseil constitutionnel parce qu'on vous sent très attentif aux justiciables et moins de la caste des grands juges qui décident de satisfaire l'individu narcissique.
Non, je ne fais pas partie des grands juges.
Égocentrique, mais oui, hélas, mais voilà, vous faites partie des petits juges. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant une heure. Je suis désolé, on n'a pas réussi à exploiter le riche filon. On l'a un peu exploité, mais il reste 1000 pépites encore sous-jacentes. Donc je redis une dernière fois, n'hésitez pas à La revanche des juges de François Guéranger aux éditions de l'Artilleur, un livre passionnant sur la démonstration vraiment convaincante et scientifique du fait que le gouvernement des juges est advenu. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.